pour votre accueil chaleureux et pour cette invitation à intervenir ce soir devant vous dans cette ville de Belfort que j'ai découvert pour la première fois et qui m'a enthousiasmé. Ah oui, j'ai trouvé la vieille ville très jolie, mais ce qui m'a particulièrement enthousiasmé, je vous sens surprise, c'est ce carrefour entre les religions. Vous voyez? Ces collégiens qui, comme ça, se déplacent de communauté en communauté, rencontrent des dignitaires religieux, et dans un bel esprit, un esprit qui se veut de fraternité. Et ça, voyez, on en discutait d'ailleurs ce soir avec vous, Nadia, avec Marie-Christine, avec Benoît, avec Laurent. J'ai trouvé ça, écoutez, fraternel, et ça me laisse plein d'optimisme, sachant les temps que nous vivons. Voilà, je vous sens sceptique. Voilà, je préfère opter pour l'optimisme. En tout cas, merci beaucoup de votre présence effective. Merci beaucoup donc à cette association Racines et Chemins pour cette invitation. J'ai d'ailleurs aimé le titre de votre association. Hein. Être enraciné, c'est a priori être convaincu, être dans une identité définie, circonstanciée, mais être en chemin, c'est être en quête, être en gestation. Donc il y a comme une sorte de complémentarité entre les deux vocables qui m'enchante et que je trouve cette complémentarité suggestive. Alors, me présenter, vous me demandez de me présenter.
Oui, c'est mieux.
C'est toujours délicat de parler de soi-même, hein, c'est un petit peu, hein, ça fait un peu pompeux. Écoutez, je m'appelle Dan Jaffé. J'ai un parcours universitaire assez classique, somme toute. C'est-à-dire que j'ai fait une partie de mes études en Israël, donc dans la banlieue proche de Tel Aviv, dans une université dans laquelle j'enseigne aujourd'hui, l'université Bar-Ilan, qui se trouve vraiment tout à proximité de Tel Aviv. J'y ai fait mon bachelor ainsi que mon master en histoire des religions. Ensuite, j'ai voulu poursuivre ma formation en focalisant et en me spécialisant sur la patrologie, c'est-à-dire la littérature des pères de l'Église, donc les grands auteurs chrétiens de l'Antiquité, hein, qu'ils soient d'expression latine, d'expression grecque ou d'expression syriaque. Donc j'ai poursuivi ma thèse de doctorat à l'école pratique des hautes études, dans la section des sciences religieuses, à Paris. En co-tutelle avec Paris 10 et en Sorbonne, j'ai fait une thèse en histoire des religions et en sociologie des religions. Et puis ensuite, j'ai commencé ma carrière universitaire avec... Donc je suis reparti en Israël, j'ai obtenu progressivement un poste, ce qu'on appelle la tenure, c'est-à-dire la permanence, ce que les Canadiens appellent la permanence. Donc aujourd'hui j'ai une chaire, je suis titulaire de mon poste, et je suis également rattaché à un laboratoire du CNRS à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Je suis d'origine provençale, en fait. J'ai grandi à Marseille, figurez-vous, là où mon père réside encore. Là, il a un bel accent méridional que je n'ai pas. Et j'ai enseigné longtemps à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence, ainsi qu'à la faculté, à l'Institut catholique de la Méditerranée. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Voilà, j'ai ensuite eu une carrière de chercheur. J'ai publié des ouvrages, des articles scientifiques, dans différentes langues, je participe à des colloques, et en fait je suis spécialiste, enfin j'essaie de m'intéresser, on va être spécialiste, un bien grand mot, j'essaie de m'intéresser à la naissance de deux traditions religieuses. D'une part le judaïsme rabbinique, et d'autre part le christianisme primitif. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la façon dont les doctrines religieuses s'institutionnalisent. Voilà, j'y arrive. S'institutionnalisent. C'est-à-dire, comment une tradition religieuse se cristallise avant de devenir une orthodoxie. Autrement dit, comment le judaïsme va devenir rabbinique, comment, d'une époque, de la fin de l'époque du Second Temple, hein, des siècles qui ont précédé l'avènement du christianisme, eh bien, nous avons une société juive pluridoctrinale, avec différentes conceptions, différentes interprétations de la Bible, avec des groupes juifs qui souvent eh bien, entretiennent des relations assez acrimonieuses les uns envers les autres, dont chacun est convaincu de posséder l'interprétation ultime de la Bible. Là, je fais référence aux pharisiens, aux sadducéens, aux esséniens, aux sectaires de la mer morte, enfin, à tous ces groupes-là. Comment est-on passé, vous voyez, de cette plurivocité, en fait, hein, de ce judaïsme pluriel, à un judaïsme plus monolithique, plus orthodoxe, qui sera dirigé par les rabbis du Talmud, c'est-à-dire les premiers siècles de l'ère chrétienne, vous voyez. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, ce passage, cette transition. Donc, du point de vue historique, du point de vue interprétatif, textuel, du point de vue sociologique, anthropologique, etc. Et je m'intéresse parallèlement à un autre groupe juif de l'Antiquité, je dis bien un autre groupe juif de l'Antiquité, à savoir les premiers chrétiens, qu'on appelle le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme me fascine. Alors, qu'est-ce que le judéo-christianisme? Eh bien, c'était des groupes divers de juifs, ethniquement juifs, qui en fait considéraient Jésus comme une figure messianique. Alors, quelle était cette figure messianique? Était-elle une figure messianique royale, sacerdotale, un prêtre, prophétique, eschatologique, qui annonçait la fin des temps, et une forme de révélation cataclysmique? Quelle était cette figure messianique et qui étaient ces premiers chrétiens? Les disciples, par exemple, de Jacques le Juste, hein, pour vous situer du point de vue néo-testamentaire. Voilà. Non pas les disciples de Paul, mais les disciples de Jacques le Juste, le frère du Seigneur, le frère de Jésus, hein, qui apparaît, en tout cas, nous avons une épître qui est rédigée par ses disciples dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, ce sont les deux traditions religieuses qui m'intéressent. Pour le dire très rapidement, en fait, hein, de façon un peu plus condensée, eh bien, je m'intéresse à la gestation de traditions religieuses. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et ça, c'est donc ce sur quoi je travaille. Pas seulement, je travaille également sur ce qu'on appelle de l'historiographie, c'est-à-dire la façon dont on écrit l'histoire. Si tant est que l'histoire est une science, et si tant est que épistémologiquement, nous puissions définir ce qu'est une science, eh bien, l'histoire est une discipline qui, par définition, est subjective, puisqu'elle est le fruit de celui qui lit le passé et qui l'interprète, hein, donc de l'historien. Et ceci m'amène à introduire la problématique qui est la nôtre ce soir, et sur laquelle on m'a demandé d'intervenir, à savoir la façon dont les historiens juifs se sont intéressés au personnage de Jésus de Nazareth. Alors pourquoi cette question? J'ai écrit tout un ouvrage, il y a de cela quelques années, qui s'intitule « Jésus sous la plume des historiens juifs du XXe siècle, approche historique, perspective méthodologique et approche historiographique », c'est un titre qui fait un petit peu peur, un long titre. En fait, qu'est-ce que j'ai voulu? Quelle était la question qui a été la question qui m'a interpellé dans cet ouvrage et qui a suscité cette recherche? Je me suis demandé si les historiens juifs du XXe siècle, d'abord quel était leur rapport pour comprendre le personnage de Jésus du point de vue historique, et surtout s'il y avait une forme de récupération identitaire. Autrement dit, peut-on, en étant un historien juif, eh bien, comprendre et contextualiser le personnage de Jésus dans son temps, au sein de l'époque qui est la sienne, en étant faisant acte de science, en étant dans le domaine de l'histoire, de la discipline universitaire, sachant le contentieux qui est celui des juifs et des chrétiens pendant 2000 ans. Et ça a été la problématique qui m'a interpellé. Et surtout, quel était l'apport de ces historiens juifs, hein? Vous n'êtes pas sans savoir que le 20e siècle est un siècle qui a vu la découverte de textes, de données, d'informations qui ont totalement changé nos connaissances sur le christianisme primitif. Notamment, je vais vous donner deux exemples des plus significatifs, dès 1945, la découverte de la bibliothèque copte de Nag Hammadi en Égypte, c'est-à-dire les manuscrits de ces sectes hétérodoxes, c'est-à-dire hérétiques, entre guillemets, en tout cas parallèles ou alternatives au christianisme qui tendait à s'orthodoxiser. Donc on a des sectes qui conçoivent le personnage de Jésus de façon tout à fait différente, et on a retrouvé leurs manuscrits sous forme souvent de fragments, voire sous forme de manuscrits complets. Je vais vous donner un exemple, l'Évangile selon Judas, par exemple. Alors, l'Évangile selon Judas, ce n'est pas exactement un des manuscrits coptes de Nag Hammadi, mais c'est un texte apocryphe qui élague complètement la résurrection de Jésus. Hein, dans l'Évangile selon Judas, Judas n'est non pas le traître, mais c'est le disciple préféré de Jésus, et Jésus lui demande de le transmettre aux Romains. Autrement dit, faire acte de délation afin de se défaire de son enveloppe charnelle et pouvoir ainsi revenir à une entité première qui serait celle de l'âme et qui serait décloisonnée de cette prison que serait le corps finalement. Alors là, quand on lit de tels textes, on fait référence évidemment à des doctrines gnostiques, hein, à des gens, des chrétiens dans l'Antiquité, mais pas seulement des chrétiens, également des juifs, qui pensaient que la vie terrestre est une punition, un châtiment, que Dieu a créé le monde non pas comme un mérite, mais comme une forme de punition, afin que l'homme, il vive un labeur, une souffrance sans nom, et ce de façon continue. Vous voyez, il y a un souci, effectivement, de revenir à une première origine, de gens qui se pensaient être des élus, qu'on appelle des gnostiques, le mot gnostique venant du mot gnosis, en grec, qui veut dire des gens détenteurs de la connaissance. Donc, vous voyez, on a un foisonnement, interprétatif de gens dans l'Antiquité, qui, par exemple, ne considéraient pas la résurrection de Jésus comme une donnée prépondérante et fondamentale, de la croyance du personnage et comme une doctrine, capitale de l'être chrétien. Donc, tous ces mouvements, hétérodoxes, tous ces mouvements m'intéressent énormément. De l'Antiquité, de gens qui ne pensaient pas selon la norme, si vous voulez. C'est le cas pour le christianisme primitif, mais c'est également le cas pour le judaïsme. Avant que les rabbis prennent le pouvoir, écrivent le Talmud et que le judaïsme devienne ce judaïsme qui descend, qui est l'héritier des pharisiens, et qui est le judaïsme qui perdure depuis 2000 ans et que l'on connaît, nous avions là aussi un foisonnement d'écoles, d'approches, de sectes, qui chacune proposait sa propre interprétation, sa propre sensibilité, sa propre vision du texte révélé et de la façon d'être juif. Donc vous voyez, tout ceci est très intéressant. Et pour en revenir donc à la problématique qui nous occupe ce soir, Jésus de Nazareth. Comment a-t-on pensé Jésus de Nazareth? Alors, du point de vue historiographique, qui m'a occupé en écrivant cet ouvrage, c'est non pas la façon dont on s'est représenté le personnage de Jésus dans l'Antiquité, mais la façon dont on s'est représenté le personnage de Jésus en monde juif au XXe siècle. Et je vous ai cité notamment la découverte des manuscrits coptes de Nag Hammadi dès 1945, qui sont aujourd'hui tous édités, mais j'aurais pu également vous citer peut-être la plus grande découverte archéologique du XXe siècle à partir de 1947, que sont les manuscrits de Qumran, absolument, et les manuscrits du désert de Judée. Hein, ces juifs qui vivaient de façon recluse, qui refusaient le temple de Jérusalem et sa direction spirituelle sadducéenne, et qui avaient des rites extrêmement rigides, des rites qui refusaient notamment le mariage et la procréation, etc. etc. Ouais. Donc, ce qui va nous occuper ce soir, c'est de savoir comment on a pensé le personnage de Jésus parmi les historiens juifs. Voilà. Et j'ai essayé de vous montrer en guise d'introduction pourquoi la question posée, en quoi la question est-elle légitime du point de vue de la recherche universitaire. Alors, je commencerai très tôt, avant d'aborder le XXe siècle, et je commencerai par brosser à grands traits le portrait de Jésus dans le Talmud. D'abord, qu'est-ce que le Talmud? Le Talmud est une littérature juive qui a été rédigée après la destruction du Second Temple de Jérusalem, c'est-à-dire à partir du 1er siècle après l'ère chrétienne, et qui va s'étendre, que ce soit en Palestine romaine ou en terre babylonienne, qui va s'étendre jusqu'au 6e, 7e siècle après l'ère chrétienne. Autrement dit, on a une littérature très vaste, dense, qui va traiter de la loi, qui va nous conter des récits également, et qui va entre autres évoquer le personnage de Jésus. et ce, de façon quasi contemporaine à l'existence même de Jésus. Hein, nous avons des sources juives, talmudiques, du 1er et 2e siècle, qui nous parlent de Jésus, et qui d'ailleurs eh bien, le dénomment selon le patronyme, entre guillemets, qui était le sien. Hein. Jésus s'appelait en hébreu galiléen Yeshua. Non pas Yehoshua, mais Yeshua. Hein. On contractait le « hey », hein, c'est-à-dire une consonne dans la diction galiléenne, et donc on nous parle de ce Yeshua. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous en parle comme un rabbi, comme un disciple des sages, hein, et non pas comme un fondateur de religion, et non pas comme un hérétique. Alors ceci est très intéressant, ça suscite questions. Hein. On peut d'ailleurs comparer la façon qu'a le Talmud de nous parler de Jésus de Nazareth, des textes romains à notre disposition, qui eux aussi, quand on lit, eh bien, ne serait-ce que Tacite, Suétone, au début du IIe siècle, eh bien, eux aussi évoquent Jésus comme Christos, c'est-à-dire un ouin, quelqu'un qui aurait été perçu par ses disciples comme un roi, qui dit roi dit séditieux, donc quelqu'un qui poserait problème au monde romain. Et on se rend compte effectivement que dans ces différentes littératures, eh bien, le rôle qui est celui de Jésus, en tout cas le rôle qu'on lui prête, est un rôle eh bien, de dirigeant spirituel. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on le considère comme étant un érudit, c'est pas ce que je dis, mais comme une forme de, disons, de nomade qui serait suffisamment charismatique pour mobiliser les foules et pour eh bien, délivrer un enseignement qui eh bien, serait porteur, qui sensibiliserait des gens dans cette Judée romaine du 1er siècle. Voilà. Donc ça, c'est Jésus dans le Talmud. Hein, Jésus est considéré comme un rabbi. Ceci est très important, hein, il faut le savoir. Alors, pour avoir accès à toutes ces sources, il faut lire des manuscrits en araméen souvent, qui aujourd'hui, heureusement, sont numérisés, qui n'apparaissent pas dans les éditions les plus courantes du Talmud, du fait eh bien, que ces textes aient été censurés. Hein, entre le XIIe et le XIIIe siècle, les manuscrits talmudiques ont été censurés, notamment par les instances dominicaines, et ensuite, c'était le cas des versions imprimées. Voilà, ça c'est Jésus dans le Talmud. Donc vous voyez, il y a ici, j'allais dire, un souvenir très intéressant du personnage de Jésus. Hein. On reproche même, eh bien, au 6e, 7e siècle, dans le Talmud, on reproche même à des rabbis qui ont vécu au 1er siècle d'avoir rejeté des judéo-chrétiens, de ne pas les avoir considérés comme des juifs. En leur disant, vous voyez, ces gens étaient des juifs, vous les avez rejetés, parce que vous avez opéré une forme de normalisation socio-religieuse après l'effondrement du temple et la perte de Jérusalem. Or, ces gens qui étaient, eh bien, nos frères, d'autres juifs, aujourd'hui sont devenus des païens et ont fondé une religion qui est devenue religion d'État de l'Empire romain et qui, eh bien, sont devenus nos ennemis. Autrement dit, nous sommes nous-mêmes responsables des vicissitudes de l'histoire et des problèmes, eh bien, que nous encourons aujourd'hui, dont nous sommes nous-mêmes les responsables. Et donc le Talmud est assez ambivalent. Mais dans tous les cas de figure, Jésus est considéré comme un maître spirituel. Bon. Ceci, on le retrouve sous la plume de grands penseurs juifs du Moyen-Âge. Je vais vous citer un seul exemple, qui est peut-être un exemple archétypal, c'est celui de Maïmonide. Maïmonide, qui était un savant, médecin, philosophe, mathématicien, qui a écrit une œuvre philosophique captivante, hein, Le Guide des Égarés, Maïmonide, qui a vécu au XIIe siècle. Maïmonide. Alors c'est M-A-I-M-O-N-I-D-E. Ça vient du grec Maïmonides, fils de Maïmon. Vous voyez, Ides, le suffixe idex en grec veut dire fils de. Maïmonide, c'est exactement la même époque que Thomas d'Aquin et que Averroès, en monde musulman. On a ici trois penseurs de la scolastique qui essaient tous les trois de concilier foi et raison, ou plutôt foi et philosophie, et qui sont tous trois inspirés par le philosophe par excellence, à savoir Aristote. Vous voyez. Maïmonide, qu'écrit-il à l'égard de Jésus? Alors, j'ai un des textes sous les yeux. Il considère, Maïmonide, eh bien, Jésus, tenez-vous bien. Je parle d'un rabbi juif, hein, un des plus grands penseurs du Moyen-Âge pour le monde juif, qui est aujourd'hui célébré par le monde juif et par le monde non-juif également, comme un penseur hors pair, qui considérait cet homme Jésus comme étant balisé, comme ayant, pardon, balisé la voie du Messie. Autrement dit, nous sommes redevables à Jésus et au christianisme d'avoir enseigné le monothéisme aux nations du monde. Jésus est donc celui qui a permis, eh bien, de préparer l'avènement messianique. Évidemment, il n'est pas considéré comme le Messie pour Maïmonide, ni même comme une divinité, mais il est considéré comme un prophète. Et ceci est loin d'être négligeable. Il est considéré comme un prophète, il est considéré comme celui qui permet l'avènement du roi Messie. Là aussi, il faut avoir accès à des éditions non censurées, à des éditions manuscrites pour lire ces textes, mais en tout cas, ceci est surprenant. C'est un exemple, hein, Maïmonide, mais ça va se retrouver dans l'histoire, on va le retrouver au XVIe, XVIIe siècle, etc. Autrement dit, chers amis, ce que je veux dire par là, c'est que, contre toute attente, la façon dont on a considéré Jésus en monde juif, je ne dis pas que c'est exclusif, mais je dis que ça a son importance, eh bien, on a considéré Jésus non pas de façon polémique, mais on a considéré Jésus d'une part comme un juif, et comme un juif qu'il fallait replacer dans le contexte historique de son temps, qui était, eh bien, détenteur de certaines vertus prophétiques, un peu comme le dit l'évangile selon Matthieu d'ailleurs, dès son baptême avec Jean le Baptiste au chapitre 3. Nous avons dans ce chapitre tous les motifs bibliques de la prophétie qui est réitéré. Donc c'est ainsi que l'on a considéré le personnage de Jésus. Dans le monde juif, en tout cas dans le Talmud et au Moyen-Âge, et jusqu'à la modernité, c'est-à-dire jusqu'au 17, 18, 20e siècle, et même jusqu'à nos époques contemporaines, Jésus n'est pas celui qui fonde le christianisme. Ce n'est pas un schismatique. Ce n'est pas un schismatique. On a longtemps considéré en monde juif un schismatique, un auteur de schisme. Hein, on a longtemps considéré en monde juif que l'auteur, ou plutôt l'instigateur, ou le grand idéologue du christianisme n'était pas Jésus, mais Paul de Tarse. Ce qui aujourd'hui est remis en question d'ailleurs historiquement. Hein, on se rend compte que grâce à des recherches universitaires américaines, là aussi il y a lieu de comprendre Paul dans le contexte diasporique juif de son temps, comme étant dépositaire d'une double culture, une culture pharisienne et une culture diasporique, c'est-à-dire une culture polythéiste. Donc, vous voyez, tout ceci est très complexe. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez bien? Parce que je dis beaucoup de choses, je ne sais pas de toutes ces choses ce qui vous est familier, ce qui l'est moins, donc je ne voudrais pas vous perdre en chemin. Est-ce que vous me suivez bien? Bon, parfait. Donc on peut entrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, après cette très brève introduction. Voilà, excusez-moi. Alors, le premier historien que j'aimerais évoquer, et là j'entre dans les recherches qui ont mené la rédaction de cet ouvrage, le premier historien que j'aimerais évoquer est un historien dont une grande partie de son œuvre a été traduite en français, c'est Heinrich Graetz. Ça s'écrit G-R-A-E-T-Z. C'était l'époque de cette fin du 19e siècle où on écrivait des sommes, vous voyez, des volumes comme ça sur l'histoire universelle. Enfin, on n'était pas à faire de la micro-histoire comme aujourd'hui où on focalisait sur des problématiques beaucoup plus précises. On écrivait vraiment des sommes, c'est l'époque d'Ernest Renan, hein, pour un peu vous situer historiquement, cette époque-là. Bon. Et Graetz va écrire un ouvrage, une monographie, qu'il va d'ailleurs rédiger en langue française et qu'il va intituler « Sinaï et Golgotha », dont le titre est assez programmatique d'ailleurs, « Sinaï et Golgotha ». Et Graetz va nous dire la chose suivante, je le cite dans le texte in extenso. Graetz va écrire la chose suivante. « Deux Galiléens, Judas et Jésus, étaient destinés à féconder deux doctrines » pour en faire éclore deux nouvelles formes de la religion juive. Deux nouvelles formes de la religion juive. Le judaïsme et le christianisme du Moyen-Âge en sont sortis. l'un du pharisaïsme et l'autre de l'essénisme de Jésus le Christ. Autrement dit, que nous dit Grèce ? Grèce nous dit deux points qui sont ici capitaux. Judas, il ne s'agit pas de Judas Iscariote, hein, il s'agit de Judas le rédacteur de la Mishnah, c'est-à-dire un des premiers compilateurs du Talmud. Judas est des Galiléens, Jésus était Galiléen. Ces deux personnages ont vécu en Palestine romaine. Ces deux personnages ont apporté des modifications de taille qui ont été ensuite révélatrices de mutations très importantes dans l'histoire, puisque l'un a été le premier rédacteur du Talmud, Judas le Saint, hein, et l'autre fait germer une nouvelle forme de judaïsme. Non pas une nouvelle religion, mais une nouvelle forme de judaïsme. Et là, troisième élément, Grèce nous dit que Jésus, a puisé ses sources et ses facteurs d'influence de l'essénisme. Alors qu'est-ce que l'essénisme ? L'essénisme, donc, c'est un mouvement duquel est issu les Esséniens. Les Esséniens qui, pour faire court, bien que ce soit très controversé, que l'on a assimilé en fait aux sectaires de la Mer Morte, les fameux rédacteurs des manuscrits du désert de Judée. Voilà. Donc je parlais il y a un instant. Le mot essénien vient du mot assia en araméen qui veut dire les guérisseurs. Pourquoi ? Parce que Pline l'Ancien, qui est un écrivain, un rhéteur romain, qui d'ailleurs mourra dramatiquement en se rapprochant du Vésuve, hein, vous vous souvenez, voilà. Eh bien, Pline l'Ancien nous dit que les Esséniens sont des thérapeutes, des guérisseurs. Donc, vous voyez, c'est ainsi que le mot Essénien vient de l'araméen assia, les guérisseurs, les thérapeutes. Qui sont les Esséniens ? Ce sont des gens qui vivent de façon recluse, qui refusent la direction spirituelle du temple de Jérusalem et le faste qui est celui des Sadducéens, qui sont des prêtres juifs, souvent collaborateurs des Romains. Donc ces gens vivent de façon totalement séparée, ce sont des séparatistes, ils mettent l'accent sur les lois de pureté, et ce sont des gens qui refusent toute forme de mariage, qui considèrent la femme comme étant teintée d'impureté, etc., etc. Autrement dit, ce sont des sectaires. Y a-t-il un lien entre ces doctrines, ces rituels et le personnage de Jésus ? Aujourd'hui, on en est revenu. Hein. Les thèses de Grèce ont été reconsidérées dans le sens où on a d'une part, pour les Esséniens, une forme d'approche inclusiviste, c'est-à-dire repliée sur elle-même, alors qu'avec Jésus, on a au contraire un message délivré à l'égard d'autrui. Toutefois, on considère les textes des synoptiques comme étant porteurs d'historicité. En tout cas, c'est la façon dans laquelle on se représentait Jésus à la fin du XIXe siècle, non pas comme un fondateur de religion, non pas comme un rebelle, un schismatique ou quelqu'un qui serait un sectateur, hein, un sécessionniste, si vous voulez, non pas comme quelqu'un qui se serait détaché du judaïsme pour faire éclore une révolution au sein du monde juif, absolument pas, mais quelqu'un à intégrer au sein de la société juive de son temps. Et ça, c'est très important. Très important, chers amis, parce que dès l'époque de Grèce, à la fin du XIXe siècle, on avait déjà compris que pour entrevoir la société juive de la fin de l'époque du Second Temple, autrement dit la société juive de l'époque de Jésus, il y avait lieu d'en comprendre la pluralité, alors avec des mouvements qui étaient des mouvements réformateurs tels que les pharisiens, hein, pharisaoi en grec, qui veut dire les séparés, qui étaient les pères fondateurs des rabbis du Talmud, pharisiens donc, premier groupe, second groupe les sadducéens, troisième groupe donc les esséniens, quatrième groupe les zélotes, cinquième groupe, les apocalypticiens, etc., etc. Parmi tous ces groupes juifs de la fin de l'époque du Second Temple, on avait déjà compris à la fin du XIXe siècle, à l'époque de Grèce, qu'il y avait lieu de replacer les premiers chrétiens comme faisant partie de cette société juive, comme étant eh bien un des groupes juifs, historiquement parlant, bien entendu, ce temps et de cette époque. Et alors c'est très intéressant parce qu'en monde chrétien à cette époque, il suffit de relire par exemple Adolf von Harnack, l'historien théologien allemand, mais pas seulement, on pourrait citer de nombreux autres auteurs, eh bien on a un Jésus qui fonde le christianisme. On a un Jésus qui n'est absolument pas juif. On a un Jésus qui n'a aucune racine avec la société, le terreau, le milieu qui l'a porté, à savoir la Galilée, qui était la Galilée à l'époque de Jésus. Or, dans le monde juif, on va essayer, alors, est-ce une récupération identitaire? Est-ce un souci d'objectivité scientifique? Il me semble que c'est la seconde option qui est ici à relever, mais en tout cas, on va recontextualiser Jésus dans le monde juif de son temps. Et nous sommes avant la découverte des manuscrits de la Mer Morte, avant la découverte des manuscrits de Nag Hammadi, avant même la découverte de l'écrit de Damas, avant même la découverte de la Gnisa du Caire. Qu'est-ce que la Gnisa du Caire? La Gnisa du Caire, c'est des découvertes majeures de la fin du XIXe siècle, qui se composent. Vous savez, dans le monde juif, on a la coutume de ne pas se défaire, c'est-à-dire se débarrasser des textes sacrés. Voilà. Alors aujourd'hui, on les enterre, mais plutôt dans l'histoire, notamment autour du Xe siècle, c'est-à-dire époque d'où remonte cette fameuse Gnisa. Gnisa veut dire entrepôt. On entreposait les textes. Il y avait dans les synagogues une salle, un peu comme celle-ci, on entreposait les textes. Et on a retrouvé, 1000 ans après, donc entre le 10e et le 19e siècle, ces textes, ces fragments, en Égypte, dans la vieille ville du Caire, à Fosta. L'époque dont je vous parle, celle de Grèce, précède tout cela. Donc vous voyez, on a vraiment ici quelque chose d'essentiel et de précurseur. Ça va jusque-là? Parfait. Continuons. J'aimerais vous citer un second auteur. Alors, ce sont des auteurs qui, malheureusement, ne sont pas traduits en français, qui sont d'expression... pour Grèce, cet ouvrage est en français, mais difficilement, d'ailleurs, très difficile de pouvoir le trouver, cet ouvrage-là. On a des auteurs qui s'expriment en anglais, en allemand, etc., dans différentes langues européennes. Je vais y arriver. Donc là, je vais vous parler d'un second historien. Ce second historien, c'est Hans-Joachim Tjeps. Hans-Joachim Tjeps a vécu dans les années 30. Hans-Joachim Tjeps est né à Berlin en 1909. Il décède en 1980. Il retournera en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Il est juif lui-même. Et il enseignera jusqu'à la fin de sa carrière. L'histoire des religions, ce sera un des grands spécialistes, justement, du judéo-christianisme. Hans-Joachim Tjeps a écrit un article retentissant dans les années 30, qui s'intitule en français, que je traduis, « Jésus et la loi juive ». Que n'a-t-on pas dit sur Jésus et la loi juive? On pourrait remplir cette salle d'ouvrages, d'articles, sur le rapport de Jésus et la loi juive. Le problème, c'est que, avant de se demander si Jésus était... respectueux ou au contraire observateur de la loi juive, il faut se demander ce qu'était la loi juive à l'époque de Jésus. Existait-elle cette loi juive à l'époque de Jésus? Quand on parle de loi juive, on ne parle pas de loi mosaïque, de la loi de la Torah, du Premier Testament. On parle de la loi orale, de la loi talmudique, qui, élabore le rituel juif jusqu'à aujourd'hui. On parle de la loi orale, la loi du Talmud. Or, le Talmud n'était pas rédigé à l'époque de Jésus. Donc comment pouvait-il observer une loi qui n'existait pas encore? Et Tjeps va être un des premiers, à la différence du monde chrétien qui va nous expliquer à l'époque que Jésus eh bien, fonde une nouvelle loi, que c'est celui eh bien, qui déclare l'esprit supérieur à la chair en empruntant des motifs qui sont souvent de l'ordre de la dichotomie, qui apparaissent en monde gréco-romain, etc. etc. Ben, Tief, ça va nous dire absolument l'inverse. Je vais vous lire un petit passage de Tief. Tief écrit dans les années 30 hein, du XXe siècle. La thèse que nous défendons dans la présente étude est la suivante. Fascinant, Tief. La critique que Jésus fait de la loi, les divergences existantes entre sa pensée et son attitude et la tradition juive, tournent entièrement autour de parties de la loi qui ne constituaient pas encore de son vivant une halakha, c'est-à-dire une loi, définitivement stabilisée. Vous vous rappelez, Marc 7, les ablutions des mains, Matthieu 12, le problème des épis arrachés, etc., etc. Mais est-ce que tout cela était ancré dans le monde juif? Est-ce que ça représentait eh bien, des notions qui étaient des notions... paradigmatiques, incontournables et sur lesquelles on ne pouvait pas faire l'impasse. Est-ce qu'elles étaient admises par la plupart des juifs de son temps? Alors je continue à vous citer Tchèps. De plus, Jésus s'oppose jusqu'à un certain point au principe de la tradition rabbinique, mais ces principes n'en étaient pas encore de son temps, nous dit Tchèps. Ce qui était sans doute établi dès cette époque, c'était le principe de la tradition orale, selon lequel des débats sur la loi, les votes et les décisions des écoles n'étaient pas simplement l'expression d'opinions personnelles, mais avaient un caractère inspiré. C'était aussi l'idée que toutes les halakhot, donc les lois des rabbins, l'enseignement oral, n'étaient que l'exposition détaillée de la Torah sinaïtique, et avaient déjà été révélées par Dieu à Moïse, et que par conséquent, une interprétation avait d'autant plus de valeur qu'on pouvait la suivre plus haut sur la chaîne de la tradition. Autrement dit, ce que nous dit Tchèps ici, c'est que les pharisiens, qui sont les prédécesseurs des rabbis, vont considérer que leur propre enseignement est de l'ordre de la révélation sinaïtique, et que leur propre commentaire de la Torah, de la loi mosaïque, eh bien, a autant de valeur que la Torah elle-même. Mais à partir de quand tout ceci est établi de façon apodictique? Bien pas avant le 3e, 4e siècle. Donc 300 ans après la vie de Jésus. De plus, les débats, qui étaient souvent des débats académiques sur la casuistique de l'interprétation de la loi, avaient cours à Jérusalem, parmi certaines écoles pharisiennes et proto-rabbiniques. Or Jésus est galiléen, et on sait que la tradition galiléenne est très différente de la tradition hiérosolimitaine, c'est-à-dire celle de Jérusalem. Je cite encore une phrase de Tchèf. C'est ce principe qui est en jeu, nous semble-t-il, dans le conflit qui oppose Jésus aux autorités rabbiniques de son temps. Les pharisiens, Jésus se refuse à reconnaître aux halakhot des rabbins, ou des rabbis, alors en train de prendre forme, en pleine gestation, et donc à l'enseignement oral, l'autorité de la Torah. Alors là, il faut que j'explique parce que ce deuxième point est capital. Et Tchèps a raison. Ça a été un des premiers à le dire, historiquement parlant. Que nous dit Tchèps? Hans Joachim Tchèps nous dit la chose suivante. Pour les rabbis du Talmud, leurs enseignements, la loi orale, la loi talmudique, a autant de poids et autant d'importance, c'est-à-dire elle est le fruit d'une même révélation, que la Torah écrite. Autrement dit, que le Pentateuque. Or, on a ici une loi divine face à une loi des hommes. Et Jésus considère que ses ajouts, ses extrapolations, ses interprétations rabbiniques ne sont absolument pas divines et qu'elles n'incombent pas à chacun. Ainsi, il est contre toutes ces spéculations, ces extrapolations, ou ces ajouts auxquels se livrent les rabbis. Lui, comme juif galiléen, il est encore profondément eh bien, influencé, va nous dire Tchèps dans un autre ouvrage, et à mon avis à juste titre, il est profondément influencé non pas par les écoles pharisaïques et par l'enseignement de la loi orale qui deviendra le Talmud, mais par le message des prophètes. Jésus, lui-même, eh bien, est le dépositaire du message des prophètes. Et si vous mettez en synopse Isaïe, par exemple, dès les premiers chapitres, et certaines notions du Nouveau Testament, vous verrez combien eh bien, tout ceci eh bien, se recoupe. Et combien les enseignements eh bien, sont similaires. Hein, ils sont similaires. Alors ceci est très important. Pourquoi ? Alors, c'est moi qui rajoute à la thèse de Chaps. Mais ceci est très important. Pourquoi ? Parce que quand les rabbis vont prendre le pouvoir après la destruction du Second Temple de Jérusalem, ils vont considérer qu'ils sont eux-mêmes, les rabbis, donc les rabbins, qu'ils sont eux-mêmes, eh bien, les continuateurs, ou plutôt les héritiers, ou ceux qui vont supplanter, voilà comment le dire en français, ceux qui vont supplanter les prophètes. Autrement dit, la prophétie s'est interrompue. Plus de prophètes. Or, pour les premiers chrétiens, les judéo-chrétiens, Jésus est un prophète. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en Matthieu 3, on a clairement ici un prophète, ou alors un roi qui serait issu de lignée davidique, c'est-à-dire qui viendrait de la maison de David. Ça apparaît très clairement dans les généalogies de Matthieu au tout début, ou même en Matthieu 15, etc., etc. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui pose problème, en fait, c'est une querelle intramuros entre juifs sur peut-on encore admettre la véracité du message prophétique ? Jésus lui-même est dépositaire de ce message prophétique biblique. Les rabbis supplante-t-il les prophètes? La prophétie s'est-elle interrompue en Israël, parmi le peuple juif en Palestine romaine? Tout ceci, ce sont des questions qui vont être débattues précisément au 1er siècle et à l'époque de Jésus. Jésus ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi ses disciples eh bien, sont interpellés s'ils arrachent des épis un jour de Shabbat. Que dit-il à ce moment-là? Il nous cite la Bible en disant, mais quand David, avec ses disciples, eh bien, est arrivé au sein du temple, ils ont eux aussi consommé les pains de proposition. C'était des pains qui étaient consacrés, ils avaient faim, ils les ont mangés. Donc la Bible elle-même m'enseigne quelque chose que vous, pharisiens, vous détournez ou que vous reconsidérez. Alors, cela veut-il dire que Jésus n'était pas pharisien pour autant? Non, ce n'est pas ce que je dis. Jésus était pharisien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, comment le comprendre? Si Jésus était pharisien, comment c'est-il qu'il lutte contre les pharisiens? Rappelez-vous Matthieu 23, les fameuses malédictions contre les scribes et les pharisiens. En fait, il y avait différentes écoles pharisiennes, et c'est ce que j'explique dans mon ouvrage, différentes écoles pharisiennes. D'ailleurs, le mot de pharisien, il faut s'y arrêter un instant, chers amis. Le mot pharisien, en hébreu, son étymologie, vient du mot parouche. Parouche, pour ceux qui sont un peu hébraïsants, parouche, en fait, a deux significations, deux acceptions. D'une part, l'ifroche, ce qui se sépare, les séparatistes, et d'autre part, c'est un piel, les pharèches, qui veut dire commenter, interpréter. Autrement dit, les pharisiens sont ceux qui interprètent la Bible et qui vont créer la loi orale, le Talmud. D'autre part, ce sont ceux qui se séparent. Qui se séparent de quoi? Qui se séparent, en fait, de l'acculturation qui est celle des Asmonéens, c'est-à-dire des prêtres, des grands prêtres, à partir du IIe siècle avant l'ère chrétienne, où les grands prêtres Asmonéens, qui étaient eux-mêmes au départ des gens rigoristes et profondément conservateurs, qui vont lutter contre les Grecs, mais qui, deux, trois générations ensuite, eh bien, à partir des années 120-130, vont fonder un état asmonéen et vont s'acculturer, c'est-à-dire vont adopter la vie de la polis et la culture grecque. Et ça, les pharisiens s'en séparent. Ainsi, ils seront considérés par leurs adversaires comme des séparatistes. Ce n'est pas une autoproclamation, ce sont les adversaires de ces pharisiens qui les considèrent en tant que tels. Bon, pourquoi je vous raconte tout cela? Pour vous dire, en fait, que nous avons différentes écoles pharisiennes. Nous avons les pharisiens de Jérusalem, qui sont des docteurs de la loi, qui sont ceux qui vont créer la loi orale, le Talmud, mais nous avons également des pharisiens de Galilée. Les pharisiens de Galilée ne sont pas du tout des gens qui vont spéculer et commenter la loi mosaïque. Ce sont des gens qui précisément vont considérer le judaïsme comme étant le fruit de l'enseignement des prophètes. C'est exactement le message de Jésus. Le fruit de l'enseignement des prophètes. Quand je dis les prophètes, je parle des prophètes bibliques, hein. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Comprenez? Donc il y a différentes branches, différentes catégories qui sont, eh bien, le fruit des écoles pharisaïques de l'époque de Jésus. Alors, j'aimerais à présent parler d'un autre historien sur lequel je suis en train d'écrire un ouvrage, figurez-vous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'écrivain israélien maintenant décédé qui s'appelait Amos Oz. Vous en avez entendu parler. Bon. Est-ce que vous avez lu une histoire d'amour et de ténèbres chez Gallimard? C'est son autobiographie, un gros livre. Dans ce livre-là, Amos Oz, il a écrit également un livre traduit en français qui s'intitule Judas. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui reprend les thèses gnostiques de Judas, qui est le disciple préféré de Jésus et dont Jésus lui demande de le livrer aux Romains, ce dont je parlais tout à l'heure. Bref, je vous conseille de lire Amos Oz. Dans Une histoire d'amour et de ténèbres, Amos Oz nous parle de son grand-oncle. Qui était son grand-oncle? Son grand-oncle s'appelait Joseph Klausner. C'était un historien, un grand historien. Un historien spécialisé, justement, sur l'époque du Second Temple, donc l'époque de Jésus. Il a écrit de nombreux ouvrages. À l'époque, vous savez, les savants étaient des gens qui connaissaient à peu près 12 langues modernes et autant de langues antiques, qui n'avaient pas d'ordinateur pour écrire, ni même d'intelligence artificielle, et qui pourtant étaient des savants hors du commun. Joseph Klausner va écrire le premier livre en hébreu moderne sur Jésus. Premier livre en hébreu moderne sur Jésus, premier livre à caractère scientifique, écrit par un historien, et non pas par un publiciste ou par un polémiste ou que sais-je. Bon, nous sommes en 1922, il écrit en hébreu. Et voici ce qu'écrit Klausner, je cite. Ouvrage qui sera paru d'ailleurs, qui paraîtra, excusez-moi, en 1933 en français, qui est épuisé. Mais qui, je l'annonce avec beaucoup de joie dans le cœur, sera bientôt réédité par les éditions du CERF, avec le livre que je prépare sur Klausner. Nous allons rééditer le Jésus de Klausner en langue française. Donc, nous avons de quoi se réjouir. Alors, qu'écrit Klausner au début de son ouvrage? Il écrit « Si nous pouvons donner, je cite, au lecteur juif une notion exacte du Jésus historique, une notion qui ne soit ni celle de la théologie chrétienne, ni celle de la théologie juive, et qui soit aussi scientifique et aussi objective que possible, si nous pouvons leur donner une idée de ce qu'est cette doctrine à la fois si proche et si éloignée du judaïsme, et une idée des conditions politiques, économiques et spirituelles dans lesquelles se déroulait la vie des juifs à l'époque du Second Temple, conditions qui rendirent possible l'apparition de Jésus et l'apparition de sa doctrine, alors nous aurons rempli une page blanche de l'histoire d'Israël qui avait jusqu'alors été écrite presque uniquement par des chrétiens. Nous sommes en 1922 et il écrit en hébreu. Alors jusque-là, bon, nous avons une volonté de faire œuvre d'historien. Un livre remarquable, mais Klausner va rencontrer, va se heurter à certaines difficultés. Pourquoi? Parce que Klausner va contextualiser eh bien, Jésus dans le judaïsme de son temps, et Klausner va surtout eh bien, montrer combien Jésus correspond à la démarche des Juifs de Galilée de cette époque du 1er siècle. C'est-à-dire que quand on compare certaines figures charismatiques galiléennes avec Jésus, on se rend compte qu'il y a des affinités qui sont, eh bien, qui sont évidentes, quoi. Hein. Il ira même jusqu'à écrire Klausner. À la fin de son ouvrage, La force de Jésus réside dans sa morale. Si l'on supprimait dans les évangiles les récits de miracles et un certain nombre d'expressions mystiques qui tendent à la déification du Fils de l'homme, pour ne garder que les préceptes de morale et des paraboles, les évangiles compteraient comme l'un des plus merveilleux codes de morale de l'humanité. Il fallait écrire ça, chers amis, en 1922 en langue hébraïque, en hébreu moderne. Il fallait un courage hors pair pour écrire ce genre de choses. Ça va lui valoir bien des déconvenus. Klausner va désirer, toute sa carrière durant, une chaire sur l'enseignement de l'histoire juive à l'époque du Second Temple. Une chaire qu'on lui refusera à l'Université hébraïque de Jérusalem. Pourquoi ? Eh bien parce que ceux qui subventionnent l'Université hébraïque de Jérusalem à cette époque sont des juifs américains. Or l'antisémitisme sévit, ce sont des gens qui ont subi les pogroms d'Europe de l'Est et qui ont émigré aux États-Unis et qui ne peuvent supporter quelqu'un qui, bien qu'il fasse œuvre de science, eh bien se montre aussi dithyrambique à l'égard de Jésus. Et ainsi on va le censurer, on va lui refuser cette chaire qui pourtant est l'objet de toute sa carrière. Il écrira dans ses mémoires des pages tragiques où il sera mis à l'index. Et vous savez, dans les milieux universitaires, quand on met à l'index quelqu'un, il est difficile ensuite de le réhabiliter. Klausner écrira, « Jésus est pour la nation juive, je cite, un grand moraliste et un artiste de paraboles. Il y a dans cette morale une richesse et une originalité de forme qu'on ne trouve dans aucune autre morale hébraïque. » Il va loin. Qu'on ne trouve dans aucune autre morale hébraïque, ni dans la Mishnah, ni dans le Talmud, ni dans la littérature intertestamentaire, etc., etc., du monde juif de l'époque. Il nous dit, voilà, c'est un trésor du judaïsme et c'est quelque chose de tout à fait unique, de tout à fait singulier. Le jour où il sera débarrassé des récits des miracles, un grand rationaliste, un Klausner qui ne supporte pas les miracles, le jour où il sera débarrassé des récits des miracles et du mysticisme, le livre de morale de Jésus sera l'un des plus précieux, joyaux, quel lapsus, le livre de morale de Jésus sera l'un des plus précieux joyaux de la littérature juive de tous les temps. Alors, je vais vous citer un auteur qui, les exemples abondent, hein, et foisonnent, mais je vais vous citer un auteur qui va, de façon véhémente, considérer Klausner comme un traître, à la nation juive. D'ailleurs, ce livre sur Jésus, sur lequel je travaille actuellement et sur lequel j'écris mon livre, eh bien, va encourir bien des déboires, et pour Klausner, mais également pour le traducteur de son livre, de l'hébreu en anglais. En fait, le traducteur de son Jésus de Nazareth en hébreu, puisque cet ouvrage paraîtra en 1925 en anglais, en langue anglaise, le traducteur s'appelle Herbert Denby, c'est un anglican. Et on va reprocher au traducteur d'être, eh bien, un traître pour les chrétiens, puisque on va lui dire qu'il aura contribué à humaniser Jésus, et donc à le dédiviniser. Et on va reprocher à Klausner, au contraire, eh bien, d'être un nouvel apôtre de ce Jésus qui est fondateur du christianisme. Et Klausner vient et nous dit, mais non, vous n'avez rien compris. Il faut replacer les choses dans leur contexte historique pour essayer de bien percevoir les subtilités et les complexités de ce que l'histoire a à nous apprendre. Certains vont aller jusqu'à écrire, je vais vous citer une référence. Une référence écrite par Ephraim Beinart, qui publie un ouvrage. Nous sommes en 1923 à Saint-Louis, Le glaive pour Dieu et Israël, contre le livre Jésus de Nazareth et sa doctrine du docteur Joseph Klausner, etc., etc. qui s'est évertué à faire entrer Jésus sous les ailes de la présence divine. Et voici ce qu'il écrit. Si Klausner, 1925, donc 3 ans après l'apparition en hébreu, et 1925, c'est l'année de l'apparition en anglais. Si Klausner, le nouvel apôtre, trouve dans cette étude des allusions contre Jésus de Nazareth, donc dans son étude, le livre qu'il écrit contre Klausner, son messie de justice, je lui en donne ma permission à la condition qu'il respecte la chronologie historique et qu'il ne fasse pas usage de cette permission contre les sages du Talmud qui ont vécu avant la destruction du Temple. J'aimerais analyser ce propos avec vous et vous montrer son inanité. Pourquoi ? Que nous dit Deinhardt ? Hein, comme tous les gens qui s'expriment avec véhémence, Deinhardt, eh bien, manque de rigueur historique et va vite en besogne. Vous savez, c'est comme ces gens qui écrivent des ouvrages en nous expliquant des vérités absolues, dont ces ouvrages sont emplis d'approximations, et dont les gens qui, en fait, interrogent ces auteurs sur ces ouvrages manquent de culture livresque et ne sont pas à même de pouvoir, eh bien, évaluer ce que sont ces ouvrages. C'est exactement le cas avec Deinhardt. Deinhardt, enfin, que dit-il contre Klausner ? Bien, il lui dit, voilà, tu as fait du christianisme une religion qui surpasse le judaïsme alors que les chrétiens nous ont malmenés pendant 2000 ans. Mais c'est absolument pas ce qu'a fait Klausner. Klausner a essayé de considérer non pas le christianisme, mais Jésus de Nazareth. Or, Jésus de Nazareth ne fonde absolument pas le christianisme. Quand Jésus meurt sur la croix en 29-30, crucifié par les Romains, et qu'il dit « Eli, Eli, lama sabachthani » en araméen, psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bah, il meurt en tant que juif. Et le christianisme n'existe pas encore. Il est même bien loin d'exister. Et il y a ici, en fait, une démarche historique rigoureuse que Deinhardt outrepasse. D'autant plus que pour Deinhardt, eh bien, il considère que les sages du Talmud ont vécu avant la destruction du Temple, ce qui est totalement faux. Avant la destruction du Temple en l'an 70, second Temple de Jérusalem, les sages du Talmud n'existent pas encore. Vous voyez, donc, on fait une distorsion des notions historiques à des fins polémiques. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ceci va engendrer bien des déconvenues à Klausner. Alors, j'aimerais continuer en vous citant encore 2-3 auteurs qui, chacun à son niveau, ont contribué à une meilleure connaissance du judaïsme de l'époque de Jésus, et surtout de Jésus contextualisé dans le monde juif qui était le sien. Mais avant cela, j'aimerais, pour le plaisir de la lecture, vous citer Amos Oz. Amos Oz qui était le neveu de Klausner. Amos Oz écrit, dans son livre autobiographique « Une histoire d'amour et de ténèbres », il écrit, donc publié en hébreu, traduit en français chez Gallimard en 2004, il écrit en page 80, alors je vous cite in extenso parce que vraiment ça vaut la lecture, hein, ça vaut la citation. « Je suis sûr, » c'est Klausner qui s'adresse au Amos Oz alors qu'il est encore enfant, « Je suis sûr, mon cher petit, qu'on vous apprend à l'école à exécrer ce juif tragique et admirable. » Et j'espère bien qu'on ne vous enseigne pas à cracher sur son image ou sa croix. À chaque fois que vous passez devant, m'avait-il dit un jour, quand tu seras grand, mon cher enfant, tu liras le Nouveau Testament au nez et à la barbe de tes maîtres, et tu t'apercevras que cet homme était de notre chair et de nos os. Que c'était une sorte de juste ou de thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles. Un rêveur, dépourvu de toute compréhension politique, qui trouverait parfaitement sa place au panthéon des grands hommes d'Israël, près de Baruch Spinoza, qui lui aussi fut excommunié et banni et mériterait également qu'on lève l'anathème dont il fut frappé. Et ici, dans la Nouvelle Jérusalem, il conviendrait que nous élevions la voix pour affirmer autant à Jésus, fils de Joseph Caspinosa, tu es notre frère. Et sache que ces accusateurs sont les Juifs d'hier, aux idées courtes et à l'entendement limité, de misérables vers de terre. Et toi, mon cher petit, afin de ne pas leur ressembler, Klausner, et toi, mon cher petit, afin de ne pas leur ressembler, le ciel nous en préserve. Tu dois lire les bons ouvrages, lire, lire et encore lire. Quel propos à l'heure des réseaux sociaux, chers amis. On nous annonce avant de lire un article qu'on a 3 minutes de lecture. Amosos. Alors, je voudrais vous citer encore 2 auteurs. Hein. Il me reste encore quelques minutes, n'est-ce pas?
Oui, quelques minutes.
Ah, quelques minutes. Oula.
Je permets de jeter des questions.
Je comprends. Est-ce que 10 minutes?
Oui.
10 minutes, c'est bien? C'est vrai qu'à Cambridge, dans les colloques, à Cambridge, ils ont gardé une façon de faire. Quand vous intervenez en colloque, en anglais, il y a un monsieur comme ça, habillé avec les vêtements d'époque, qui tape comme ça, qui vous dit « aura est ». Vous êtes dans plein de phrases « aura est ». Je vais vous arrêter.
On a déjà fini 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, et il coupe le micro.
Dans les colloques, souvent, quand on est président de séance, on brandit un papier, 5 minutes. Et là, l'orateur vous dit, mais je viens de commencer. J'aimerais vous citer un auteur qui a été traduit en français, qui est un auteur d'expression allemande, que vous connaissez certainement. Hein, c'est Shalom Ben Horin. Shalom Ben Horin qui va écrire « Mon frère Jésus, perspective sur le Nazaréen ». Et qui là, Ben Horin dit quelque chose d'essentiel. Je cite, « Le judaïsme pharisaïque, donc des pharisiens, du temps de Jésus est marqué par 2 grandes écoles, Hillel et Shammai, 2 grandes écoles talmudiques, Hillel et Shammai, qui ont contribué à donner sa forme définitive à la loi juive, c'est-à-dire à cette règle religieuse qui provient de l'interprétation de l'Ancien Testament, tout particulièrement des commandements du Pentateuque. Bon. Je n'hésite pas à dire, le dernier paragraphe est capital, je n'hésite pas à dire que je considère Jésus de Nazareth comme une 3e autorité. L'autorité d'Hillel, l'autorité de Shammai et une 3e autorité, celle de Jésus. Comme une 3e autorité à placer aux côtés des interprétations de Hillel et de Shammai. Il me semble en effet qu'une tendance particulière se fait jour dans l'interprétation de Jésus. Il s'agit de l'intériorisation de la loi où l'amour devient l'élément décisif et moteur. Et là, qu'est-ce qu'on a en fait du point de vue méthodologique, chers amis? Ben, on a une interprétation juive proto-talmudique, donc avant l'émergence du Talmud, qui en fait s'inscrit dans les écoles de pensée qui sont celles de son temps, c'est-à-dire du 1er siècle, hein, alors que le judaïsme rabbinique est en totale gestation. Et on a différentes approches pour interpréter le Pentateuque, celle de Hillel, celle de Shammai et celle de Jésus. Ça, c'est Ben Horin. Hein, j'ai pas le temps de pouvoir... Enfin, il faudrait qu'on y passe la nuit, parce que il y aurait beaucoup à dire sur la façon qu'a été celle de Ben Horin de poser les jalons, hein, qui ensuite, dans l'historiographie, on va travailler cette thèse et puis l'affiner. Mais en tout cas, je vous en aurais dit les éléments principaux. Alors, je voudrais terminer, voilà, avec un dernier auteur, plutôt 2 derniers auteurs. Le premier a une histoire particulière. Il a été professeur à Oxford. Il est né juif d'origine hongroise. Ensuite, il s'est converti au catholicisme. Il est même devenu prêtre. Pour ensuite, à la fin de sa vie, il a vécu plus de 100 ans, 101 ans, me semble-t-il, à la fin de sa vie, revenir au judaïsme. Vous voyez, quelqu'un qui s'est pas mal cherché dans sa vie, il s'agit du professeur Geza Vermesh. Geza Vermesh, dont la plupart des livres sont traduits en français, notamment son Jésus, le Jesus of the Jew, Jésus le Juif, publié en 1977, en 73 en anglais, puis d'autres travaux sur les évangiles, dont certains que j'ai d'ailleurs vus chez vous, Marie-Christine. Geza Vermech, premier auteur dont j'aimerais vous parler, second auteur qui n'est pas traduit en français, le professeur Shmuel Safraï, qui possédait une chaire sur l'histoire de l'époque du Second Temple à l'Université hébraïque de Jérusalem. Ces deux auteurs vont développer une thèse révolutionnaire pour essayer de comprendre Jésus dans le judaïsme de son temps, mais surtout pour essayer de supposer de catégoriser Jésus dans un des mouvements, dans une des mouvances juives de son temps. Était-il pharisien? Si oui, quelle sorte de pharisien était-il? Se rapproche-t-il plutôt des Esséniens? Était-il un anti-romain, un zélote, comme certains l'ont écrit? Etc., etc. D'ailleurs, il y a eu un panel il y a quelques années par une des revues scientifiques américaines qui a demandé à 40 chercheurs, dont moi-même, de poser cette question, en fait. Peut-on, affilier Jésus à un des mouvements juifs qui nous sont connus, notamment par Flavius Joseph? Bon. Et là, Geza Vermech et Shmuel Safraï vont montrer qu'à l'époque de Jésus, nous avons un groupe de rabbis ou de proto-rabbis qu'on appelle des chassidim. Chassidim veut dire des pieux. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire chassidique, rien à voir avec les chassidim d'Europe de l'Est, de la Pologne et de la Podolie du 18 et 19e siècle. Rien à voir non plus avec les chassidim rhénans du 11e et 12e siècle. Les chassidim veut dire des hassidéoi en grec, des pieux. Bon, qui sont ces gens-là? C'était en fait des charismatiques qui mettaient l'accent non pas sur l'étude, alors que l'étude est le point d'orgue fondamental du pharisaïsme, des pharisiens et des rabbis, mais qui mettaient l'accent plutôt sur l'action, sur la supplication, sur la prière, sur le miracle, sur le bouleversement du cycle de la nature, une grande proximité avec le divin. Pour le chassid, le pieux, l'étude est secondaire par rapport à l'action. Et Vermech et Safraï vont nous dire que Jésus se retrouve typiquement dans le modèle du chassid galiléen charismatique. Les groupes pharisiens, nous disent Vermech et Safraï, sont loin de représenter des groupes aux frontières circonscrites, mais offraient plutôt des contours d'une mosaïque aux tendances diverses. Et ils nous montrent que les chassidim, qui apparaissent eux-mêmes dans les textes les plus anciens de la littérature juive de l'époque, c'est-à-dire 1er et 2e siècle, représente une forme de piétisme qui se caractérise par différentes pratiques que l'on peut énumérer de la façon suivante. Donc là, je vais vous énumérer, voyez, chers amis, une liste, et le temps me manque, donc je vais me contenter d'une liste, de pratiques et de doctrines qui caractérisent ces pieux. Donc ces rabbis ou ces proto-rabbis qui sont des charismatiques et qui sont galiléens. Et vous allez vite vous rendre compte qu'on retrouve des similitudes, mais qui sont évidentes, avec le personnage de Jésus. Et là, vraiment, on doit être reconnaissant à l'égard de ces grands savants qui étaient Vermech et Safraï, pour avoir les premiers établi ce genre de rapprochement. D'une part, une localisation topographique de ce mouvement, donc ce mouvement des chassidim, en Galilée. D'autre part, une vie de grande pauvreté. Troisième point, une place prééminente des femmes dans les sources relatives au chassidim. Quatrième point, une profonde piété accompagnée d'actions charismatiques. Enfin, une priorité, je l'ai dit, donnée à l'action plutôt qu'à l'étude. Des guérisons miraculeuses, effectuées quelquefois à distance, exactement comme Jésus. Exactement. Vous pouvez comparer Jean 4, où Jésus guérit le fils du centurion, avec des textes du Talmud à propos des chassidim, où les façons de procéder sont exactement les mêmes. Une faculté à intercéder pour faire survenir les pluies. Ça se trouve face à Jésus, par contre. Une relation privilégiée avec le divin, s'illustrant par un apport filial. Les chassidim appellent, ou plutôt interpellent Jésus sous la forme de Abba. Papa. Exactement comme Jésus. Abba, qui est un mot d'araméen, qui a donné le mot Abbé, d'ailleurs. Un mode d'expression avec Dieu, considéré comme trivial, voire irrespectueux par les autres sages. Et enfin, un élan total vers le divin, basé principalement sur la prière et non sur l'étude du texte révélé. Autrement dit, nous avons ici, selon Vermeil et Safraï, eh bien des similitudes qui nous laissent entrevoir une identité de Jésus qui s'insère dans une certaine facette du monde juif, je le répète, pluriel et totalement fragmenté, qui est eh bien le monde juif de ce temps, de cette époque, du premier siècle. Autrement dit, pour me résumer et conclure, ce que j'ai essayé de vous montrer, mais vraiment à la vitesse de l'éclair, hein, c'est que nous pouvons faire des recoupements en étant prudents et montrer combien les textes se croisent. Nous pouvons également montrer qu'une société ou une tradition religieuse n'est jamais étanche, qu'elle est le fruit eh bien, de facteurs d'influence qui se retrouvent entre différentes tendances. Et surtout, montrer que à l'époque où Jésus clame son message, en tout cas si on en croit les évangiles synoptiques, eh bien le monde juif est un monde juif en totale fragmentation socio-religieuse, qu'il n'y a pas encore de normalisation rabbinique, et que le monde pharisien, qui est présenté pourtant dans les évangiles comme un monde monolithique, les pharisiens contre Jésus, eh bien, est tout ce monde pharisien, sauf monolithique, qui est au contraire, lui aussi, eh bien, le fruit de différentes tendances, de différentes approches, de différentes sensibilités interprétatives et doctrinales. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop long et je serai heureux de répondre à vos questions, en tout cas d'essayer.